Philippe, métaphysique à Fribourg, le 14 juin 83, troisième cours.
Après le second cours, je serai à mon bureau pour ceux qui doivent passer les examens. Au mieux, autant que possible, qu'ils soient là. Parce qu'après, ils devront me chercher un peu plus loin. C'est un peu difficile. Alors, hein. Mais si jamais il y en avait un qui vraiment avait complètement oublié, je reviendrai dans 8 jours au lycée. Ça serait tout sérieux. Torturé. Mais tout à l'heure, c'est des petits examens. Alors, ça dure 10 minutes. L'assistant peut dire les choses très sérieusement, on met un quart d'heure. Alors je dis que vous pouvez venir un peu plus vite. Bon, alors nous allons continuer d'essayer d'entrer dans la manière dont saint Thomas présente les 5 voies d'accès vis-à-vis de l'existé de Dieu. Je vous dis, c'est un grand lieu classique qu'on a beaucoup critiqué, qu'on a beaucoup commenté, qui est difficile à saisir. Alors n'oubliez pas que Kant n'a pas critiqué les voies de saint Thomas. Donc quand quelqu'un qui est conscient vous dit Kant a critiqué les voies de saint Thomas, vous pouvez dire non, il les a pas lues. Il les a pas critiqués, il les a pas lues. Il a critiqué la manière dont la scolastique décadente, après Occam, avait compris les 5 voies de saint Thomas. Vous êtes extrêmement précis là-dessus, parce que la plupart des gens, mais je ne vous dis pas des noms, parce que c'est trop grave, mais la plupart du temps, ils ne connaissent pas les voies de saint Thomas sur les avoir lues. Ils connaissent ce qui est dit à partir de la scolastique décadente. Alors on dit, ah, mais saint Thomas, la troisième voie, c'est la voie de la contingence. Mais non, ce n'est pas la contingence, vous allez voir. C'est Occam qui dit ça. N'identifions pas Occam et saint Thomas quand même. Hein. C'est quand même un petit peu dangereux. Faut pas identifier le bouc émissaire et l'agneau. Hein. C'est pas tout à fait la même chose. Alors Occam, c'est vraiment la décadence. Tandis que saint Thomas, c'est encore une montée. C'est bien qu'après saint Thomas, ça a pu monter beaucoup. Alors c'est facile de dire que... Mais il faut essayer de comprendre. Alors, première chose à voir, hein, c'est que je vois la première voie. Et je vois que la première voie implique 5 moments. Ça, c'est tout simplement la lecture au plan logique. Il y a une lecture au plan logique, il y a une lecture au plan du contenu métaphysique, et puis une lecture enfin selon l'intention de Saint-Thomas. Je crois qu'il faut bien respecter ces 3 lectures. Ces 3 lectures. La lecture logique, l'expérience. Les 5 voies partent de l'expérience. 5 expériences différentes. Ça, c'est quand même génial de la part de Saint-Thomas. Toutes les choses que je constate sont nues. Ça reste vrai. On n'a pas changé. Même si la physique d'Aristote n'est plus la physique contemporaine, le point de départ est même. Toutes les choses sont nues. Toutes les choses que vous expérimentez. Vous n'avez jamais expérimenté d'immobile. Très, très joli. Vous n'avez jamais expérimenté d'immobile. Vous avez toujours expérimenté l'immobile. Ce qui est nu. Vous pouvez avoir conscience d'un repos psychologique au niveau vital. Ça, conscience de dormir. Meilleure façon pour bien dormir. J'ai conscience de me reposer. Alors quand vous avez trop conscience de vous reposer, vous n'avez pas le temps de vous reposer plus. Justement, le repos, c'est la perte de conscience. C'est drôle, ça. C'est comme ça. Bon, alors l'expérience, je pars de l'expérience. Deuxièmement, un principe propre. Toute la difficulté est évidemment là. L'expérience, tout le monde est d'accord. Le principe propre. Tout ce qui est mu par un autre. Alors, tout ce qui est mu. on est parti de les réalités nues. Quelques réalités sont nues. Donc, on a expérimenté ce qui est nu. Le principe va nous permettre de dépasser ce qui est nu pour voir ce qui est nu ému par l'autre. La grosse difficulté, c'est de savoir cet autre. Déjà, je l'écris comme ça. Ému par un autre. En réalité, l'autre, c'est le moteur ému. Ça qui est très extraordinaire. Tout ce qui est ému par un autre. Ça, c'est un principe. Un principe qu'on doit comprendre, qui est tout simplement l'application de la découverte de l'acte en acte et d'être en puissance. Tout ce qui est en puissance dépend d'un autre. C'est-à-dire dépend d'un autre. Tout ce qui est en puissance. Parmi les réalités qui sont en puissance, il y a tout ce qui est mu. Tout ce qui est mu est une réalité qui est en puissance. C'est bien ce que saint Thomas souligne. Et donc, tout ce qui est en puissance dépend d'un autre. D'un autre, c'est-à-dire d'un acte. Donc, en fond, ce principe, si je le lis bien, selon l'explication même que saint Thomas nous donne, hein, c'est que tout ce qui est en puissance dépend d'un autre. Et d'un autre qui est un acte. Mais je le saisis au niveau physique, tout simplement. Deuxièmement, il y a un nouveau petit principe à côté, qui n'est pas en réalité un principe, qui est un corollaire. On ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre des causes. On ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre de la dépendance à l'égard d'un autre. On ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre de la dépendance à l'égard d'un autre. Ça, c'est pas un principe, c'est un corollaire. C'est un corollaire du principe de causalité. Si je pouvais remonter à l'infini dans l'ordre de l'autre, vous comprenez bien, j'irais à l'infini. Alors, ce non regressus ad infinitum, ça se dit mieux en latin, non regressus ad infinitum, je ne peux pas remonter à l'infini dans l'ordre des causes. C'est très vieux, c'est très vieux. Platon l'avait déjà dit. Aristote l'a repris, Plotin l'a repris, et tout le monde l'accepte, même ceux qui n'acceptent pas le principe de causalité. C'est très très cool. Ah, il est vivace. C'est pas étonnant, c'est un corollaire. Un corollaire, c'est-à-dire quelque chose qui vient s'ajouter. Alors c'est très curieux. Il est beaucoup plus accepté que le principe de causalité. Le non-régressus infinitum. Vous voyez, s'il y avait un régressus infinitum, il n'y aurait pas de science. Il y avait une relativité telle qu'on n'y irait pas. Alors, évidemment, comprenons bien, ceci présuppose qu'on remonte, le principe de causalité implique un principe. Si le principe de causalité est donné d'une façon à la manière de Kant, je peux remonter à l'infini. Dans la science moderne, je peux remonter à l'infini. C'est pas gênant. Puisque dans la science moderne, je suis uniquement pour saisir les connexions d'antécédents et de conséquences. Je peux toujours remonter. Je suis dans l'ordre du conditionnement. Mais dans l'ordre du conditionnement, je peux remonter. C'est un peu dans cet exemple tout bête. Hein. C'est pour enfoncer un clou. On voit simplement en faisant l'expérience enfoncer un clou. Je ne vais pas arriver très souvent. On va marteau là, il enfonce un clou. Alors il dit pour enfoncer un clou, normalement, il ne faut pas une infinité de marteau. Mais pour enfoncer un clou, il peut y avoir une infinité de marteau. Parce que le clou est plus dur que le marteau. Alors, chaque fois que je tape, c'est le marteau qui casse et pas le clou. Dis-moi, ce n'est pas le clou qui s'enfonce, c'est le marteau qui casse. Ça peut se faire. Mais imaginez ça. Un clou. Invraisemblable, comme je le sais, et le marteau, il casse. Voilà. Accidentellement, il faut une infinité de marteaux. Et ça joue le rôle de cause, puisque c'est celui qui enfonce. Il faut une infinité de marteaux pour enfoncer le clou. Accidentellement. Oui.
En fait, s'il en faut une infinité, alors le clou ne sera pas enfoncé.
Mais non, le clou ne sera pas enfoncé. Oui, mais c'est pas la peine. Il peut toujours s'enfoncer, je suis dans l'ordre du possible. il peut s'enfoncer. Et je peux remonter à l'infini. Mais oui, mais c'est pas la question. C'est la question de savoir tout simplement le lien qui existe entre l'antécédent et la conséquence. Alors c'est infini. Et c'est très vrai, c'est infini. Vous pouvez très bien imaginer, quand vous faites écrire avant, vous n'avez rien. Il a oublié que celui qui est tapé dessus. Mais on peut imaginer ça. On est dans l'ordre du possible. Dès qu'on est dans l'ordre du possible, dès qu'il n'y a plus le lien avec le jugement d'existence, on peut remonter à l'infini. Ça, c'est important, parce que c'est important de comprendre que le non-régrès sous à l'infini ne vaut qu'au niveau de la causalité qui implique un principe. Bon. Quatrièmement, la conclusion, et la conclusion, je la lis dans saint Thomas pour bien vous montrer. Ergo, necessis devenire ad aliquod primum movens. Il est donc nécessaire d'arriver, d'aboutir à un premier movens. Un premier movens. Il est nécessaire d'aboutir à un premier movens. Qui est mu par aucun. Le mauvais, en tant que mauvais, il est en acte. En tant qu'il est en acte, il n'est pas capable d'être mu. Donc, le primum mauvais, qui n'est que mauvais, est en acte. Et il ne peut pas être mu par un autre. Et saint Thomas ajoute, tout le monde est hoc. Omnes intellibus deum, cinquièmement. Tous considèrent ce primum movans, c'est Dieu. Alors, ce petit passage, on va utiliser chacun des passages. Hein. Il y a cinq moments, c'est un petit escalier roulant qui monte jusqu'à Dieu, voyez, et qui monte avec cinq étapes. Il y a cinq étapes. C'est très beau, genre, ça. Pour pouvoir démontrer l'existence de Dieu, je suis dans une perspective critique. Hein. Alors, je dénote d'abord, au point de vue logique, ces cinq moments. L'expérience, contact avec ce qui est nul, c'est-à-dire ce qui existe. Je pars de l'exister. J'illumine ce qui existe par un principe propre, déjà connu, que je connais déjà, que j'ai déjà rencontré. Tout ce qui est mu par un autre. Nous verrons exactement comment il faut le comprendre. Deuxièmement, je montre que je ne peux pas remonter à l'infini dans cet ordre de l'autre. Donc j'arrête le régressus à l'infini. J'ai dit c'est impossible. Et c'est impossible parce que s'il y avait régressus à l'infini, il n'y aurait pas de terme. Il n'y aurait donc rien d'éternel. Or, du fait même qu'il existe quelque chose, il y a quelque chose de déterminé. Donc l'exister du mouvement empêche le régresser sous sa nature. Je conclus, ergo, donc il existe nécessairement un premier mauvais. Ce premier mauvais, c'est ce que tous disent Dieu. Donc vous voyez que Dieu, c'est là où c'est très important. Vous voyez que Dieu n'est pas un terme qui conclut un raisonnement. Mon raisonnement ne s'achève pas sur Dieu, il s'achève sur primum movans. Dieu, c'est un terme, c'est un nom qui m'est donné selon les traditions religieuses ou selon ma foi. Le mot Dieu n'est pas un terme philosophique. Vous savez, dans les discussions actuelles, quand on dit Dieu sans l'être, c'est encore les mêmes problèmes. C'est parce qu'on n'a pas compris que Dieu n'est pas un terme philosophique. Si on avait compris ça, on ne dirait pas des choses aussi grosses. Parce que c'est ça qu'on veut dire. On dit l'être, c'est philosophique, Dieu est en dehors. C'est évident que Dieu est en dehors du point de vue philosophique. Ils disent ça parce qu'ils sont restés à Descartes. Descartes est le premier qui a dit preuve de l'existence de Dieu. Pas l'oublier, Saint-Thomas n'a jamais dit ça. Saint-Thomas n'a jamais dit preuve de l'existence de Dieu. Saint Thomas a dit voie d'accès vis-à-vis de l'existé de Dieu. Et pour ça, il passe par le moyen terme philosophique, primum movans. Ce que tous disent Dieu. Et en passant de ce primum movans, qui est la véritable conclusion. La véritable conclusion, c'est l'ergo. C'est pas Dieu. La véritable conclusion, c'est qu'il est nécessaire de poser un premier movans. Il est nécessaire de poser un premier moteur. Il est nécessaire de poser un premier acte, un premier être en acte. Étant donné la primauté de l'acte sur la puissance. Et ce premier, c'est Dieu. Alors je le conclue, c'est Dieu. Et là, je rattache toute la tradition religieuse à la conclusion philosophique. Vous voyez que, d'après ce petit raisonnement, la parole de Pascal ne joue plus beaucoup. Ce n'est pas le Dieu des philosophes, ce n'est pas le Dieu des croyants. Saint Thomas fait l'inverse avant Pascal. Et avant Pascal, si Pascal avait connu Saint Thomas et avait compris ce que Saint Thomas voulait dire, il n'aurait pas dit ça. C'est parce que Pascal était en face de Descartes. Et en face de Descartes, alors c'est tout à fait juste. De dire que le Dieu des philosophes qui reste une idée n'est pas le Dieu des chrétiens qui n'est pas une idée. Pour Saint Thomas, Dieu n'est jamais une idée. Et Dieu est posé selon les traditions religieuses. Voilà le nom de Dieu. Alors vous voyez que c'est intéressant de voir, au point de vue logique, c'est le lien entre l'existence et la nécessité du principe. Un principe, c'est au niveau de l'intelligibilité. Et le principe d'existence et l'existence, l'expérience, est au niveau de la réalité existante. Je lis la réalité existante et la nécessité dans l'art de l'intelligibilité pour conclure à la nécessité de poser un être qui existe de telle manière. Oui. C'est donc pas du tout le raisonnement par pure intelligibilité, puisque je pars de l'exister. Et c'est ça que Kant n'a absolument pas vu. Kant n'a absolument pas vu que l'argument de Saint Thomas part de l'exister. Kant dit que toute argumentation de démonstration a posteriori se ramène nécessairement à une démonstration a priori. Ce qui est énorme. Si on a compris la différence entre la démonstration a posteriori et la démonstration a priori, on ne peut pas dire ça. C'est tout à fait deux choses tout à fait différentes, puisque l'une part de l'expérience et l'autre part de l'intelligibilité. Mais la démonstration a priori part du principe et la démonstration a posteriori part du fait. Le principe et le fait sont jamais identiques. Mais je peux les lier. Et toute l'astuce comprend le lien qui existe entre l'expérience et le principe propre. Ça, c'est important à saisir. Alors, maintenant, je vais regarder le contenu. Le contenu métaphysique de cet argument. Le contenu philosophique de cet argument. Le contenu ontologique de cet argument. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire, ce contenu. Le principe, tout ce qui est mu par l'autre. Quel est ce principe? Vous voyez, je vous donne un petit exemple, vous allez tout de suite comprendre. Hein. Si vous êtes intelligent, vous allez tout de suite comprendre. Vous comprendrez tous immédiatement. Ce livre, il est mu. Hein. D'accord? Il est mu par un autre. Je ne suis pas lui. Non. On va m'identifier. Il est mu par un autre. Puis alors, vous pouvez faire ça aussi. Il est encore mu. Il est encore mu par un autre. Là, vous voyez la très grosse différence. C'est que mu par un autre est ou cause efficiente ou cause finale. Et toute l'interprétation vient de là. Cause efficiente, Aristote, quand il se sait du principe tout ce qui est venu par un autre, il dit cause efficiente. Saint Thomas le redit dans le Contra Gentiles. Ici, dans la Somme, il ne fait plus aucune allusion à Aristote. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus en face de la cause efficiente. On est en face de la cause finale.
tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte.
Là, vous êtes en face du principe de causalité finale. Tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Vous voyez toute l'interprétation là. Alors, c'est très intéressant au point de vue du thomiste. Hein, parce que c'est intéressant de voir la petite histoire en famille. Hein. C'est toujours intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? À partir de Hocard, qui est bien évident qu'on a interprété par la cause efficiente, puisque la cause finale, elle tombe sur la cause efficiente. Et Hocard reprend le point de vue de la cause efficiente. Et à partir de là, Suarez, et la bonne scolastique jusqu'au bout, le père Garrigou Lagrange étant compris dedans. Alors, jusqu'au bout, cause efficiente. Je me souviens avoir fait une fois un scandale dans un congrès thomiste pour avoir simplement dit je mets en doute cette causalité efficiente et je crois que c'est la causalité finale. Alors, j'ai vu les professeurs d'angélique qui regardent. Non, c'est impossible. Or, ça ne peut être que la cause finale. Pourquoi? Parce que on est au niveau de l'exister. On n'est pas au niveau du mouvement. On part du mouvement. Mais on est au niveau de l'exister. Or, au niveau de l'exister, il n'y a pas de cause efficiente. Donc, il n'y a que la cause finale. C'est bien ça. Autrement, ce serait plein d'arguments de la physique. Au niveau métaphysique, vous avez ou la cause formelle, ou la cause finale, vous n'avez pas la cause efficiente. Donc, nécessairement, vous êtes au niveau de la cause finale. C'est du reste facile à comprendre. Tout ce qui est nu par l'autre, cet autre, c'est quoi? Et cet autre, il ne peut être que le primo province. Puisque je le conclue. À partir de l'autre, je conclue le primo province, donc il est le primo province. Et le corps relève supprime la possibilité qu'il y ait des intermédiaires. C'est ça qui est merveilleux. Impossibilité de remonter à l'infini dans l'ordre des causes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ne prenez pas la voie de la cause efficiente. Vous remonterez à l'infini. Le marteau. Et en réalité, on télescope tout point de vue des causes efficientes pour regarder le point de la cause finale. Alors, tout ce qui est mu par un autre, c'est-à-dire par un premier moment. Ce premier moment est donc l'être en acte. S'il est l'être en acte, il est Dieu. Et voilà le contenu. Le contenu, c'est que le principe, tout ce qui est mu par un autre, est au niveau métaphysique et donc au niveau de la causalité finale. Il n'est pas au niveau du physique. S'il était au niveau du physique, la causalité, on pourrait douter. Mais comme il est au niveau métaphysique, il est tout de suite au niveau final, la cause finale. Et c'est ce qui montre bien que tout de suite, il passe primum movens. Or, le primum movens, qui n'est mu par aucun, Aristote le dit textuellement, il meut selon la causalité finale. Donc vous voyez bien qu'on est bien en présence de la causalité finale et non pas de la causalité efficiente. Et je sais très bien qu'en disant ça, hein, on dit quelque chose que personne ne dit. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. C'est le suffrage universel parmi les thomistes. Alors, si c'était le suffrage universel parmi les thomistes, pauvre saint Thomas. Non. Tous, mais faites l'enquête, ça vaut la peine. C'est très vite fait, du reste. On voit tout le temps causalité efficiente, causalité efficiente. Sans voir que la causalité efficiente ne peut pas exister au niveau de l'être, alors ça ne signifie rien du tout. Vous êtes donc en physique. Si vous êtes en physique, vous ne pouvez pas conclure plus ou moins. Alors, ce qui est très intéressant, vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Maintenant, un dernier point. Qu'est-ce que ça veut dire, cette preuve, si j'essaie de comprendre, au niveau proprement philosophie première, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui est mu, si je le regarde du côté de son exister, du côté de son être en acte, ce qui est mu n'est jamais premier. Voilà tout ce que ça veut dire. Ce qui est mu, du fait même qu'il existe, il dépend d'un autre qui est au-delà de tout mouvement. Autrement dit, le mouvement n'est jamais premier dans l'ordre de l'être. C'est une grosse évidence, hein, du moins j'espère, pour vous. Ce qui est mu n'est jamais premier. Ce qui est mu est totalement dépendant de l'être en acte. Et l'être en acte, c'est ce que nous appelons tous Dieu. Oui, alors, c'est beau, c'est très beau comme vision, hein, comme vision métaphysique. C'est de voir qu'une réalité qui est mue, qui existe en mouvement, nécessite immédiatement l'intervention de la cause première. Pas un cheveu tombe sans que Père Céleste tombe. Parce que la chute des cheveux, c'est imposé. C'est ce qui est lu, c'est évident. La chute des feuilles. Eh bien, la chute des feuilles dépend de la cause première. Immédiatement, c'est peut-être même que ça existe. Ça, c'est beau à essayer de contempler. De saisir comment ce qui existe en mouvement immédiatement peut poser le primum momens. Parce que ce qui est mu demeure en puissance, donc il est second. Et il dépend directement de ce qui est premier, ce qui est en acte. Bon, voilà la première voie. Alors maintenant, voyons la seconde. Une fois qu'on a compris la première, ça va beaucoup mieux. Or, comme la première est la plus manifeste, c'est toujours Père que voir en même temps. La seconde. Je vous lis le texte de saint Thomas. La seconde voie se réfère à la notion de coefficient. Ah, alors ici, vous allez me dire, bah, on est vainqueur, hein, c'est la coefficient. Attention. Secunda via est ex ratione coefficientis. C'est-à-dire qu'on se sert de la coefficient comme matière d'où l'on part. Exactement comme la première voie se prend ex voto. C'est pas le mouvement qui est principe. C'est pas la coefficient qui est principe. Je pars de là. Je constate qu'il existe un ordre dans les causes efficientes. Premier point de vue. Je lis, texte. La seconde voie se réfère à la notion de cause efficiente. Nous constatons, observer les choses sensibles, qu'il y a un ordre entre les causes efficientes. In venimus enim. Inisti sensibilibus esse ordinaire causarum efficientium. Un ordre dans les causes efficientes. Vous en faites l'expérience tous les jours quand vous vous servez d'un stylo, d'un pic. Un ordre dans les causes efficientes. Vous avez l'instrument, vous avez la main, et puis vous avez votre volonté qui vous appuie. Parce que quand vous êtes trop fatigué, on s'endort, le pic tombe. Alors, vous l'ordre, il y a la volonté d'application, il y a la main, il y a le bras, puis le bic. C'est suffisant pour voir l'essence de Dieu. Le bic, la main, le bras. Il y a un ordre dans les causes efficientes. Dès que vous êtes en face du vivant, vous constatez tout de suite l'ordre des causes efficientes. Marquez que dans le monde physique, on le verrait aussi. Hein. Mais c'est plus difficile. Tandis que dès que vous êtes dans l'ordre des vivants, vous constatez tout de suite un ordre des causes efficientes. Nous constatons, à observer les choses sensibles, qu'il y a un ordre entre les causes efficientes. Mais ce qui ne se trouve pas et qui n'est pas possible, c'est qu'une chose soit la cause efficiente d'elle-même. Ça, je dis le latin, c'est plus possible. Nec tamen venitur, nec es possibile, quod aliquid sit causa efficiens. Donc, constatation de l'ordre des coefficients. Deuxièmement, le principe propre. Alors, la grosse difficulté ici, c'est que le principe propre est donné de façon négative. Nec tamen venitur. Nec est possibile. Quod aliquid sit causa efficiens sui ipsius. Vous voyez la causa sui ipsius de Descartes. Vous le trouvez ici. Il est impossible. On ne peut pas découvrir que quelque chose, que quelqu'un, soit cause efficiente de soi-même. Alors, vous voyez, c'est négatif. Hein, négatif. Impossible d'être cause efficiente de soi. Mais on est parti des causes efficientes, hein, la constatation. On reprend les causes efficientes ici. Mais ce n'est pas le nerf du principe, hein, ce n'est pas le nerf de l'argumentation. Donc il est impossible que quelque chose soit cause efficiente de soi-même. Parce qu'ainsi, il y aurait qu'on serait antérieur à soi-même, ce qui n'est pas possible. Si je suis cause efficiente de moi-même, je suis nécessairement antérieur à moi-même. Et vous comprenez pourquoi. La cause efficiente est toujours antérieure à son effet. Alors, si je suis cause efficiente de moi-même, je suis antérieur à moi-même. C'est le fameux causa sum. Non, on ne peut pas. C'est impossible. Donc, il est impossible qu'on soit cause efficiente de soi-même. Alors, vous voyez, toute la difficulté, c'est que le principe ici est émis d'une manière négative. C'est ça qu'il faut bien souligner. Non autem sit possibile, non est autem possibile, quod in causis efficientis procedatur infinitum. Troisièmement, on ne peut pas procéder à l'infini. On ne peut procéder à l'infini. Dans l'ordre des causes, dans l'ordre des coefficients. Et certains m'expliquent. Parce que dans toute cause efficiente ordonnée, le premier est cause de l'intermédiaire, et l'intermédiaire est cause ultime. Ou les intermédiaires sont plusieurs ou un seul nombre. Or, remota causa, donc la cause étant écartée, l'effet est écarté. Si donc il n'y aura pas de premier dans les causes efficientes, il n'y en aura pas d'ultime et il n'y aura pas d'intermédiaire. Mais si on procède à l'infini dans les causes efficientes, il n'y aura pas de première cause efficiente. Et ainsi, il n'y aura ni effet ultime, ni cause efficiente moyenne, ce qui est évident être faux. Oui, ça c'est pas comment. On ne procède pas à l'infini dans l'ordre des causes efficientes. C'est sûr. Quatrièmement, ergo, je retrouve l'ergo, toujours en quatrième position, ergo, nécessaire, il est nécessaire de poser une certaine cause efficiente première. Il est nécessaire de poser une première cause efficiente. On dit l'ordre. L'ordre des causes efficientes nécessite de poser une première cause efficiente. Et cinquièmement, cette première cause efficiente, tous la nomment Dieu. Dieu est posé en cinquième position. Alors vous voyez, faisons attention. Hein. Au point de vue logique, c'est exactement la même chose que la précédente. C'est exactement la même. On retrouve un principe propre, on retrouve un corollaire, on retrouve une conclusion immédiate, et puis on revient à ce que tous pensent être Dieu. Donc il y a exactement le même schéma. Les trois premières voies ont le même schéma logique. Les deux dernières, c'est différent. Nous le verrons tout à l'heure. Les deux dernières ont. Mais les trois premières ont exactement le même schéma. C'est facile à comprendre. Hein. L'expérience
le principe propre, le corollaire, la conclusion, le retour vers Dieu.
Bon, la difficulté pour lui, là, je pars de l'ordre des causes efficientes, ça c'est l'expérience, et je conclus à une première cause efficiente. Comment puis-je passer de l'ordre des causes efficientes à une première cause efficiente? Par quel principe? Ça te va aimer ici un principe d'une façon négative. C'est pas comme du tout. Il est impossible d'être cause efficiente de soi. Il est impossible d'être cause efficiente de soi. Réfléchissez bien ça, ça ne vous donnera jamais un principe positif. Il est impossible d'être première cause efficiente de soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est impossible d'être cause efficiente de soi. Si nous étions dans une argumentation métaphysique, je ne pourrais rien conclure. Parce que je ne peux jamais conclure quelque chose de positif à partir d'une expérience positive et puis un principe négatif. Du positif et du négatif, je conclue le négatif. C'est évident. Je ne peux pas conclure quelque chose de positif à partir d'une constatation positive en observant d'un point de vue négatif. C'est les règles élémentaires du syllogisme. Les règles élémentaires du syllogisme. Il faut quand même un tout petit peu savoir de logique. Hein, et comprendre que, en effet, quand vous avez quelque chose de positif et quelque chose de négatif, vous concluez le négatif. Le positif sort de deux positifs. Il y a beaucoup plus de négatifs que de positifs en logique. Vous voyez? Parce que dès que vous avez le point de vue positif et le point de vue négatif, vous concluez au négatif. En bonne logique. Or, Saint-Thomas conclut au point de vue positif. Donc, Saint-Thomas fait un défaut énorme au point de vue logique. C'est effrayant. C'est pas sa logique. Or, Saint-Thomas a commenté les analytiques d'Aristote. Et Saint-Thomas connaît parfaitement sa logique. Alors, comment fait-il ça? Je me souviens. C'est un vieux souvenir. Quand j'étais étudiant au Sauchoir, et que mon bon professeur de dogme expliquait les voies de saint Thomas, je lui ai posé cette colle. C'est pour ça que je la connais si bien. Je lui ai posé cette colle. Là, il a levé les bras au ciel. Que voulez-vous, je ne peux pas vous donner autre chose que saint Thomas. Oui, mais vous pouvez le comprendre. Il n'a pas su répondre. Il n'a pas su répondre. C'est évident, c'est une magnifique colle, hein, ça. Positif, négatif, positif. Hein. Et saint Thomas donne ça, comme c'est de ça aller de sourd. Alors, en bonne logique, ça ne va pas. C'est quand même assez étonnant, ça. Il n'a jamais pas donné d'explication, il donne ça bien. Ça. Avec une simplicité merveilleuse. Et c'est à partir de là, c'est à partir de là que j'ai compris qu'il fallait revenir à Aristote pour comprendre ça. Parce que si on ne revient pas à Aristote, on ne comprend pas ça. C'est impossible de comprendre ça. Vous voyez, la non-intelligence de mon professeur, ça sert toujours à quelque chose. L'intelligence du professeur sert à nous éveiller et la non-intelligence du professeur sert à se mouvoir, hein, se mouvoir, être cause insoumise. Justement, ce que Saint-Thomas nous dit, impossible d'être cause de soi. Et la non-intelligence du professeur oblige d'en venir. Alors, vous allez comprendre. C'est que si je suis en critique, je peux. Saint Thomas ne cherche pas à prouver l'existence de Dieu. Il lui est donné. Il cherche à montrer comment l'intelligence par l'action de l'existence de Dieu. C'est ça qu'il cherche. Il cherche les cinq voies d'intelligibilité. Alors, c'est très vrai, il aurait pu nous aider en exprimant le principe d'une façon positive. Mais il l'exprime de façon négative. C'est très curieux. je crois, pour mieux comprendre la transcendance de la première cause efficiente. Vous voyez, c'est vrai, regardez ça attentivement, hein, parce que c'est, ça vaut la peine. Nec tamen venitur, nec es possibile, c'est bien négatif, nec. Quod aliquid sit causa efficient sui psius. Quia sic est set prius se ipso, quod est impossibile. Donc on est vraiment devant quelque chose d'impossible et quelque chose de négatif. Alors je crois, ce qu'il faut comprendre, c'est que saint Thomas est en critique. Alors en critique, ça n'a pas d'inconvénient. Ça n'a aucune espèce d'inconvénient. Parce que ce principe négatif va présupposer un autre. Alors c'est là qu'il faut découvrir. Quel est le principe positif qui est exprimé par ce point de vue négatif? Il est impossible d'être cause efficiente de soi. Qu'est-ce qui pourrait traduire ça en un principe positif? Il est impossible d'être cause efficiente de soi. Qu'est-ce qu'il y a?
On est causé par un autre.
On est causé par un autre. Et on est causé par un autre, ça ne veut pas. Il faut préciser. Parce qu'on est causé par un autre et par un principe.
Dans le mouvement.
Tout ce qui est en puissance dépend d'un autre. Tout ce qui est en puissance dépend d'un autre. C'est une autre manière de traduire. Si vous êtes en puissance, vous n'êtes pas cause à soi. Or, on est cause à soi, on est en puissance, du fait même que l'existence n'est pas en attente. Donc, tout ce qui est en puissance, c'est bien essentiel. Tout ce qui est en puissance dépend d'un autre. Et alors, vous retrouvez le principe de causalité d'une façon positive. Et vous retrouvez le principe de causalité de façon vous retrouvez le principe de causalité de façon positive et au niveau de la cause finale. Tout ce qui est en puissance dépend d'un autre. Alors, vous voyez cette chose très curieuse, ça qui est très intéressant dans la Secunda Via, c'est que je pars de l'ordre des causes efficientes. Je vois que dans cet ordre des causes efficientes, il y a nécessairement un premier, première cause efficiente transcendante. Tout ordre présuppose une mesure. Tout ordre présuppose une mesure. Tout ordre implique une mesure. Il y a un ordre des causes efficientes. Il faut donc qu'il y ait une première cause efficiente. Mais comment passer de l'un à l'autre? Par le point de vue de la causalité finale. C'est encore la causalité finale qui me permet de passer de l'un à l'autre. La première cause évidente. Je ne conclue pas donc qu'il y a une fin. Non, je me sers du principe de causalité pour montrer que je ne peux pas rester dans l'ordre des causes efficientes. Autrement dit, si j'essaie de comprendre cette seconda via, qui n'est pas commode, hein, intéressante, cette seconda via, c'est que je pourrais dire l'ordre des causes efficientes n'est pas premier. Le vivant n'est pas premier. Le vivant complexe, en raison même de sa complexité, en raison de l'ordre des causes efficientes. Tout ordre des causes efficientes n'est jamais quelque chose de premier. L'ordre des causes efficientes nécessairement est second et dépend d'un autre. Il est ordonné à un autre. Et cet autre, alors lui, il joue le rôle d'acte. Et il est ici, première cause efficiente. Pleinement acte. Sans, en étant au-delà de l'ordre. Donc pleinement acte. Qu'il s'agisse de la première cause efficiente ou de l'acte pur, ça revient au même. C'est tous ceux qui appellent Dieu. Tous l'appellent Dieu. Mais c'est très curieux, hein. J'espère que vous commencez un tout petit peu à découvrir le mécanisme de ces voies. Vous êtes en critique, vous n'êtes pas en métaphysique. Vous êtes en critique. Ce que vous essayez, c'est de mettre en pleine lumière le lien de l'intelligence
avec l'existence de Dieu. Et de montrer que l'intelligence est capable, par elle-même, de découvrir ce qui est premier de ce qui est second. De ce qui est second, de ce qui est premier. Elle est capable, dans l'ordre de l'être, de découvrir l'ordre entre le premier et le dernier. Alors, la tertia via, c'est la plus métaphysique, hein, la troisième voie. Vous retrouvez le même plan, c'est pas la peine de vous le donner, vous retrouvez le même plan. Exactement pour l'idée logique. Hein. La troisième voie se prend du possible et du nécessaire. C'est ce qu'on appelle ordinairement la voie de la contingence. Mais refusez ça, hein, parce que ça, c'est pas juste. Saint Thomas a dit du possible et du nécessaire. Pas la même chose du tout. Du possible et du nécessaire. Parmi les choses, nous en trouvons qui peuvent être ou ne pas être. La preuve, c'est que certaines choses s'engendrent et se corrompent, et par conséquent, sont et ne sont pas. Je constate qu'il y a dans la réalité autour de moi des naissances et des morts. Des enterrements et des baptêmes. Hein, c'est comme ça que ça se constate. Il y a des naissances et des morts. Je constate ça. C'est évident, je le constate tous les jours. Or, il est impossible que tout soit... que certaines choses s'engendrent et se corrompent, et par conséquent sont et ne sont pas. Tout ce qui implique possibilité de corruption, tout ce qui implique corruptibilité, donc peut ne pas être. Or, il est impossible que tout soit de telle nature, car ce qui peut n'être pas, une fois ou l'autre, n'est pas. Voilà, c'est